Mais est-ce que les catholiques ils sont jugés plus sévèrement que les autres?
Bien sûr.
Puis voilà.
Et le prêtre, alors là, c'est... Comme je vous avais dit la dernière fois, dès que vous voyez un orage ou un tsunami, c'est qu'un prêtre est mort.
C'est un volcan, c'est un évêque.
Oui, un volcan, c'est un évêque. Et une météorite qui tombe sur Terre, c'est le pape qui vient de mourir.
Voilà. Ce qui me surprend, c'est la conscience que vous donnez aux enfants.
Mais c'est une conscience imparfaite pour les avant l'âge de raison.
Pourquoi leur fait pas la communion à l'âge de 8 ans et pas
avant? Ah non, 7 ans.
7 ans.
Et vous savez, vous avez des enfants qui ont l'âge de raison à 5 ans, voire à 4 ans et demi, voire à 4 ans, qui distinguent le bien et le mal, le vrai et le faux. Comment?
Comment juger un enfant de 2 ans?
À 2 ans, ça, il n'y a que Dieu qui peut le juger. Moi, je ne sais pas faire. Oui. Ça, un enfant de 2 ans, je ne peux pas... Ça. Par contre, 5 ans, si, et je vous ferai un bouquin. Si. À 5 ans, c'est très impressionnant. Certains ont l'âge de raison parfait. Hein. Ils savent comment ils mentent, quand ils dissimulent, et pas petitement pour certains.
Avec cette pièce, le projet de Pavoïté,
les
bourgeois.
Ah oui. C'est
leur confession.
Comment?
C'est leur confession.
Ah, pas seulement en confession. Parce qu'un enfant de 5 ans, je peux vous assurer, il raconte sa vie. Hein. En dehors de la confession, devant les adultes et tout. Il parle. Et puis il dit des choses énormes, parfois. Alors, il importe de se faire une idée exacte de ce jugement particulier. Il consiste simplement dans la confrontation de l'âme avec Dieu et avec sa propre conscience. Cette confrontation se fait instantanément, dès que l'âme est libérée de l'enveloppe du corps qui lui voilait toutes les choses spirituelles. Pas toutes. Là, c'est excessif, toutes. Quand on meurt, tous les intermédiaires tombent. L'imagination, le cerveau, notre santé, notre veille, waouh ! Et vous avez votre âme qui a tous ses souvenirs et toutes ses images en une seule pensée, comme les anges. Ça vous fait un... Ça, c'est une... il n'y a que l'esprit qui a cette capacité. Mais comme nous sommes unis à un corps, nous devons faire ça avec le corps. Sans le corps, nous sommes comme les anges et nous avons toute notre vie en une seule pensée. Je sais pas si vous en avez. Et du coup, tout ce qu'on a regretté sincèrement ne nous pèse pas. Vous voyez, vous avez tué votre belle-mère. Et vous l'avez confessé, vous avez fait des retraites et tout ça. Personne n'a su que c'était vous, vous l'avez enterré au fond du jardin. Ça a été... Vous avez passé la moitié de la nuit, vous avez fait un trou de 3 mètres et tout. Ça sent rien du tout. Personne, on ne sait pas. Elle est partie, elle avait un Alzheimer de toute façon. On s'est dit qu'elle est partie dans la forêt. C'est vous qui l'avez éliminée. Parce que vous vouliez l'héritage. Et un jour, dans un monastère, vous avez tout raconté, tout raconté, tout raconté. Ça faisait 20 ans quand même. Et le moine, il vous a pas dit « dénoncez-vous, allez chercher la police, ressortez le corps ». Il vous a dit « c'est vraiment pas bien hein. ». Mais moi, je suis rentré dans le monastère aussi parce que j'avais tué ma belle-mère. Donc, je vous comprends. Mais j'ai fait 20 ans de prison. Bon, alors puisque nous sommes en symbiose, par contre, vous allez faire pénitence. Et votre femme qui a pleuré, qui était toute triste et tout, vous allez être 10 fois plus gentil avec elle, vous allez réparer ce que vous avez fait. Mais dans la confession, c'est extraordinaire, c'est qu'on n'a pas à se dénoncer. La seule chose qu'un prêtre peut faire, par contre, c'est que si la personne est un prédateur, un pédophile, un assassin, un tueur à gages, il dit « moi je ne vous donne pas l'absolution, si vous n'arrêtez pas de pécher. » Ou si vous ne vous dénoncez pas, je ne vous donne pas l'absolution parce que votre dénonciation fait partie de votre soin. Vous êtes un malade. Et si vous ne vous dénoncez pas, c'est que vous n'avez pas la vraie contrition. Donc je ne vous dénoncerai pas, on est dans le sanctuaire de la confession. Mais je ne vous donne pas l'absolution. Parce que je juge que vous êtes en état de péché mortel et s'il y a un bus qui vous écrase tout à l'heure, eh ben vous irez peut-être en enfer. Donc à vous de réfléchir.
Et si vous avez un pédophile dans votre paroisse,
oui,
qui vous raconte ça, je suis très attirée.
En confession.
En confession. Je ne peux pas faire autrement, je voudrais changer, mais je n'y arrive pas pour le moment.
Eh bien, je ne lui donne pas l'absolution et je lui dis, vous irez en enfer, mon cher ami.
Alors, c'est par rapport au secret de la confession, qu'est-ce que vous faites avec un
paroissien comme ça? Il est absolu.
Non, mais s'il ne change pas de vie... Mais
ben, je ne lui donne jamais l'absolution. Et au moment de sa mort, il va en enfer.
Il est dangereux aussi dans la paroisse.
Oui, et ben je, un jour, je le pousse dans l'escalier par mégarde. C'est comme le bonhomme qui dit, j'ai empoisonné les burettes, j'ai mis du poison dans vos burettes. Vous n'allez pas pouvoir utiliser la science de la confession. Hein? Le bonhomme, il vient de se confesser, il dit, il n'a aucun regret, il ne va pas avoir l'absolution. J'ai empoisonné vos burettes, tout à l'heure vous allez mourir pendant la messe. Il dit, bah, pauvre type, hein? Je vais renverser les burettes et je vais les changer. Comment on va savoir que je les renverse parce que vous m'avez dit que vous m'avez parlé en confession du schmeul? Oh, mais ça, c'est pas juste. Oui, c'est comme ça. Donc la science du confessionnal, elle est absolue, mais on peut l'utiliser si c'est impossible de savoir qu'on l'a su en confession. Si c'est impossible, hein, faut faire attention. Et on doit mourir martyr du secret de la confession. Si la police nous demande, on doit aller en prison. Oui.
Oui. Ça veut dire qu'ils ne pêchent pas. Alors, ils sont dans la conscience. S'ils ne se considèrent pas pécheurs, comment ça se passe?
Eh bien, pour qu'un homosexuel qui passe à l'acte ne se considère pas comme pécheur, il faut qu'il ait l'ignorance de l'acte sexuel habituel. De ce qu'est un homme et une femme, donc ça c'est vraiment, il est complètement dans l'ignorance. Hein. Il est sur une île déserte et il est tombé sur un homme. En règle générale, voyez-vous, ils ont conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'autant plus que les autres leur disent. Mais au fait, non, ça ne se passe pas comme ça habituellement. Et donc, voyez-vous, leur conscience est parfois justement trop informée et ils souffrent. Ils savent qu'il y a un défaut et ils combattent ce défaut. Par contre, quand ils combattent ce défaut, c'est très méritoire. Et vous avez des homosexuels qui peuvent aller au ciel à leur mort comme des flèches, parce qu'ils n'auront jamais consenti vraiment à leur blessure. Et des gars qui se confessent, qui sont restés chastes ou qui ont chuté mais qui se sont battus et tout ça, ben, leur humilité, je pense, sera particulièrement récompensée, d'autant plus que tout le monde leur dit d'être fier de leur faiblesse. C'est comme les sites qui disent aux femmes d'être fières de tromper leur mari. C'est vrai. À force de délire actuellement, à ce moment-là, Dieu seul peut savoir où était leur conscience parfaite du bien et du mal, de ce qu'ils faisaient et ce qu'ils ne faisaient pas. Ça, c'est vraiment, il n'y a que Dieu qui peut juger parfaitement ce genre d'âme. Ben, c'est vrai, une personne, une jeune femme de 24 ans dit voilà, je me suis querellée avec ma mère pour des questions, tout ça. Oui, bien. Hein. Et vous, je vis avec un ami, tout ça. Ah oui, mais enfin, c'est pas bien. Vous devriez vous marier. Ah oui, mais ça, on verra plus tard. Oui, mais attendez, vous êtes en confession. Eh oui, mais je regrette. Je me suis, disputé, querellé. J'ai humilié quelqu'un en public à mon travail et tout. C'est grave. Oui, c'est pas bien. C'est vrai. Enfin, c'est pas bien non plus d'être avec un homme et du jour au lendemain, de lui dire au revoir ou de vous empêcher d'avoir des enfants alors que l'acte justement sexuel doit être imprégné d'amour spirituel. Et il n'est pas un acte d'amour passager, il doit être inscrit dans le temps et dans l'ouverture à la vie. Du coup, je lui fais tout le catéchisme naturel et elle tombe des nues. Ah vraiment, c'est vraiment pas bien d'être en concubinage. Oui. Oui, mais enfin, moi, je vais pas lui dire oh là là, elle est dans l'ignorance invincible. Donc je vais la laisser dans le concubinage. Oh, c'est quand même un peu lourd, quoi. Flûte. Je vais l'éclairer. Je vais la sortir de l'ignorance. Alors après, elle va dire, oh, ben à cause de vous, maintenant, je peux plus communier, j'ai pas envie de le quitter, je l'aime et tout, voilà. Ben oui, mais comment dire, c'est pas grave, vous allez pas vous damner si vous mourrez. Mais si, d'après votre catéchisme, si je meurs ce soir, je suis damné. Ben oui, mais vous ne voulez pas nécessairement insulter Dieu, vous séparer de Dieu en étant en concubinage. Peut-être que vous n'êtes pas en péché mortel, peut-être que vous ferez du purgatoire si vous mourrez ce soir alors que vous êtes en concubinage. Je ne sais pas quel est votre degré de conscience. Oui, mais d'après la théorie, je vais en enfer. Ben peut-être. Vous voulez un briquet? Voilà. Mais il ne faut pas exagérer non plus. Elle n'est pas morte, il y a un chemin dans la vie. Et puis vous avez des personnes comme ça qui sont en concubinage, ou qui sont divorcées, remariées, et qui sont très courageux, et qui disent, bon, ben voilà, j'ai été marié 30 ans, j'ai eu 4 enfants, on ne peut plus se voir, tout ça, j'ai 70 ans, elle a 75 ans, elle est tellement gentille, intelligente, tout ça, je vais vivre avec elle, je vais terminer mes jours avec elle. Et il a divorcé au bout de 30 ans, il avait... Voilà, bon. Donc il n'y a pas de nullité de mariage possible. Et au moment où ils vivent chastement, eh ben, ils peuvent recevoir l'absolution. Et ils ne font pas un drame. Vous voyez, ah oui, je ne peux pas communier avant 85 ans. Oui. Voilà. Ah, j'ai... Comment ?
Que voulez-vous dire par vivre chastement ?
Ne pas s'unir corporellement parce qu'ils ne sont pas mariés.
Oui, mais pour partager le même lit, par exemple.
Ah ben ça, c'est pas légitime.
Je me demande ça parce que je connais.
Eh ben on fait lit séparé.
C'est lit séparé.
Mais lit séparé. Alors il y en a qui vous disent, oui mais on n'a jamais cédé à la... Ben oui mais c'est un peu hypocrite quand même. Normalement on fait lit séparé tranquillement, paisiblement. C'est déjà pas mal. Vous savez, c'est normalement chastement et sans scandale. Dans l'ancien temps, même avec lit séparé, on n'aurait jamais toléré que deux personnes se vivent sous le même toit. Mais dans la ville anonyme, on le tolère. Tout à fait. Oui, mais dans la ville anonyme, voilà. Si personne ne le sait, mais personne ne doit le savoir, tout ça. Mais pourquoi on fait ça ? Mais pour défendre le mariage et pour maintenir la pression, pour pas que les gens se divorcent et se séparent. Ce qui fait que, dans ce jugement, l'âme doit répondre de tous ses actes libres, bons ou mauvais, des pensées, des désirs, des intentions, même comme des actions extérieures. Chacun sera jugé suivant son mérite, c'est-à-dire dans la mesure où il aura profité des grâces qu'il aura reçues. N'oubliez pas que tout ce que vous avez regretté, vous ne serez pas rejugé dessus. Il y a des gens qui disent « mais je vais être jugé sur toute ma vie, toutes mes pensées, toutes mes intentions, mais c'est affreux !» Ben, non. Enfin, à un moment donné, vous mettez le compteur à zéro lorsque vous... Voilà.
Et les peines du purgatoire, c'est bien aussi les...
C'est parce qu'on n'a pas tout regretté.
Je croyais que c'était les péchés qu'on avait commis.
Oui, mais qu'on n'a pas réparé. Oui, mais qu'on n'a pas réparé totalement. Mm-hmm. Vous voyez ? Vous avez humilié votre collègue de travail. Mm-hmm. Vous l'avez calomnié. Vous avez dit qu'il était alcoolique alors qu'il ne l'était pas. Vous lui avez fait perdre son emploi. Et là, vous le confessez. Ah bon, c'est un péché mortel, hein, entre nous soit dit. Donc, vous avez des personnes qui sont peut-être très sensuelles et qui ont des problèmes de pureté, mais qui jamais ne feront ça. C'est pour ça que les prostituées nous précéderont au royaume des cieux. Parce qu'il y a des prostituées qui jamais n'humilieraient quelqu'un, ne le calomnieraient pour qu'il perde son emploi. Jamais. Et donc, vous le confessez, la faute est pardonnée, et puis vous mettez bien du temps à réparer, à prendre de ses nouvelles, à voir si vous pouvez lui reprendre un emploi, rectifier la calomnie, et vous mourrez avant. Et ben, son et lumière. Et Jésus vous dit, bon... Tu l'as regretté, tu l'as dit à un prêtre, tu l'as exprimé extérieurement, mais en matière de regret profond, c'est pas ça. Oui, là. C'est. Là, oui, plus bas.
Excuse-moi, ça, c'est toujours le jugement de la semaine.
Oui, on est toujours là. Le jugement est suivi d'une sentence. Jésus dit, eh bien, comme tu l'as pu constater dans dans ta vision de conscience, hein, c'est pas tout à fait ça, hein, non. Eh bien, purgatoire, au revoir. Mais l'âme elle-même ne veut pas entrer dans la vision divine tant qu'elle porte ce regret. Elle veut pas, hein. Les âmes du purgatoire ne veulent pas paraître devant Dieu. C'est comme, vous avez plein de taches sur votre vêtement, là, vous avez la crème chantilly, et votre PDG vous convoque dans votre bureau. Et vous avez du café sur le nez, machin, vous arrivez, bonjour. Ah, c'est dit, oui. Et donc, non. Mais vous voyez, et c'est par amour qu'on ne veut pas paraître devant Dieu avec des taches sur la robe blanche. Ce jugement est irréformable. Bon, mais s'il vous plaît, non. Le jugement dernier ne sera pas un jugement d'appel ou de cassation, mais la confirmation publique et solennelle du jugement particulier. Où va notre âme après le jugement particulier ? Notre âme après le jugement particulier va au ciel, au purgatoire ou en enfer, selon qu'elle l'a mérité. Que trois lieux. Les limbes, c'est ni le ciel, ni l'enfer. Actuellement, on ne parle plus de limbes, on parle de la miséricorde de Dieu, parce que, en soi, les limbes, c'était pas le ciel. Donc les âmes d'enfants qui n'avaient pas choisi librement d'aimer, elles étaient dans un bonheur naturel, d'une connaissance naturelle.
Et qui n'avaient pas été baptisées.
Et pas baptisées. Parce que le baptême donne une lumière à l'intelligence. Mais, si vous voulez, Jean-Paul II a eu l'idée géniale de ne plus parler de limbe, la limite entre le ciel et l'enfer, mais il a parlé de miséricorde de Dieu. On ne sait toujours pas qu'est-ce qu'ils ont choisi. Les limbes des patriarches, c'était le lieu d'attente des âmes avant la résurrection du Christ. Elles étaient à la limite de l'enfer, du purgatoire et du ciel. Elles étaient entre. Certains étaient au purgatoire, d'autres non. Vous avez des saints, ils sont morts avant Jésus-Christ et ils ne pouvaient pas voir Dieu puisque Jésus n'avait pas mérité la vision divine. Donc ils étaient là. L'âme était là et sainte. Hein. Pas au purgatoire. Donc elle attendait. Imaginez, ils se parlaient entre eux parce que les âmes se communiquent entre elles. Et elles attendaient. Vous me direz, la pensée humaine est très 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 riche, hein, donc il n'y a pas d'ennui hein, dans la vie éternelle. Pas d'ennui possible. Notre pensée est extrêmement riche. Nous nous ennuyons parce que nous sommes fatigués par notre corps, mais notre pensée, lorsqu'elle elle ne se lasse jamais d'aucun objet.
Mais sont où ces petites âmes? Alors, je ne comprends pas.
On ne sait pas.
Il faut prier pour eux ou pas alors?
Il faut prier Dieu, oui. Oui, on peut prier pour elles. On les recommande à la miséricorde de Dieu. Où sont-elles? Elles sont en enfer, c'est-à-dire en enfer sans feu. Par contre, les théologiens avaient fini par dire que les limbes étaient sans feu et qu'elles avaient un bonheur naturel.
Monsieur le curé,
oui.
Si elles sont en enfer, ça ne sert à rien d'implorer la miséricorde de Dieu pour elles.
Et si elles ne s'y sont pas?
Donc, si vous dites...
Et si elles n'y sont pas,
oui,
c'était utile de prier pour elles.
Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est si vous dites que c'est utile de prier pour elles, a priori, ça exclut la possibilité de l'enfer, du coup. Non?
Mais on ne sait pas. Jean-Paul II a eu l'humilité, parce que c'est un... Il a dit, on ne sait pas.
Parce qu'en fait, quand on regarde les textes du magistère, en fait, au tout début, dans le premier siècle, c'était « Assurez-vous un coup sûr, c'est l'enfer ».
Oui. Ensuite, c'est non, pas l'enfer. Non.
Au tout début...
Non, c'était très varié.
Ensuite,
j'ai Sommaire de théologie dogmatique, les limbes. Page 204. Mais on va y arriver. Je vais essayer de terminer. Après le jugement particulier, l'âme va au ciel si elle est pure de la plus petite tâche et libérée de la plus petite dette à l'égard de la justice divine. Au purgatoire, si elle a quelques tâches légères ou quelques dettes temporaires à payer. En enfer, si elle est en état de péché mortel, la haine de Dieu et du prochain. En dehors de ces trois séjours, il en existe un quatrième, les limbes, où vont les petits-enfants morts sans baptême avant d'avoir atteint l'âge de raison. Là, ces enfants jouissent d'un certain bonheur naturel, mais ils seront éternellement privés de voir Dieu. Ça, c'était le... Mais à un moment donné, vous avez des pères de l'Église qui disent qu'ils étaient même punis du péché originel et qu'ils étaient dans le feu de l'enfer. Et ça n'a pas été maintenu. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas été défini. Ce n'est pas un dogme, les limbes. Donc Jean-Paul II pouvait y toucher. Nous parlerons plus loin du ciel et de l'enfer, qui sont deux états éternels. Parlons ici du purgatoire, qui commence dès après le jugement particulier et se trouve aboli après le jugement général. Ceux qui vont mourir juste avant la fin des temps. Purgatoire, petit, petit, petit. Qu'est-ce que le purgatoire ? Le purgatoire est un lieu de souffrance où les âmes des justes, on est sauvés, hein, on est saints, achèvent d'expier leurs péchés avant d'entrer au ciel. Quels sont ceux qui vont en purgatoire ? Ceux qui vont en purgatoire sont ceux qui meurent en état de grâce, dans l'amour de Dieu et du prochain, mais qui n'ont pas achevé d'expier leurs péchés déjà pardonnés. Quand un adulte meurt en état de grâce, il est rare qu'il puisse entrer immédiatement dans le ciel. Pour ses péchés mortels pardonnés, comme pour ses fautes légères, il doit à la justice divine une expiation qui n'a pas toujours été complète sur la terre. Ne méritant pas l'enfer et ne pouvant pas encore entrer au ciel, l'âme en état de grâce va alors au purgatoire. Le purgatoire est donc un lieu d'expiation et par conséquent de souffrance. On regrette amèrement de ne pas avoir aimé de tout son cœur. Vous giflez votre mère dans le salon parce que vraiment elle vous empêche de faire ce que vous voulez. Vous la giflez, vous entrez dans votre chambre. Ensuite, 10 minutes plus tard, c'est l'heure du repas. Ben, vous n'allez pas vous présenter comme une fleur. Au bout de 10 minutes, qu'est-ce qu'on mange, maman ? Non. Hein, normalement, vous allez réfléchir sur votre geste et vous allez rester un peu plus de 10 minutes dans votre chambre. Ça s'appelle le purgatoire terrestre, ça, je peux vous assurer. Et quand vous entrerez dans le salon 2 heures plus tard ou le lendemain, et que vous direz à votre maman « Pardonne-moi, votre maman... Voilà. Et vous avez intérêt dans les prochaines semaines à être plus gentil que d'habitude, et voilà, ça, c'est ça à réparer. Et bien, au purgatoire, on est là et puis on réfléchit un peu plus de 10 minutes, un peu plus de 2 heures, un peu plus du jour au lendemain. Je peux vous assurer qu'on réfléchit plus longtemps et on a notre vie devant les yeux, donc tout ce qu'on n'a pas réparé de tout notre cœur, c'est là. Voilà. Alors on est là, on va, toutes les méchancetés, les moitiés de pardon et tout ça, on est là face à ça, pendant des jours et des jours et des années pour certains. Il faut qu'il expie ce manque d'amour. Alors Luther, il ne pouvait pas supporter le purgatoire parce que de toute façon, il ne pouvait même pas supporter le bien, les bonnes actions. On est foutu, on est pécheur, on n'a rien à faire, Dieu nous sauve comme ça. Il ne faut pas ni faire le bien ni faire le mal, on ne sait pas, on ne sait pas. Et Dieu nous pardonne ou ne nous pardonne pas comme ça. On ne peut pas y contribuer, on ne peut pas y coopérer. Et il n'y a pas de purgatoire dans le sens où Dieu nous pardonne comme ça. Donc on n'a pas à regretter de ne pas avoir assez aimé. C'est non, on ne peut pas contribuer à notre salut. On est trop pécheur. Luther dit la conscience, la raison humaine, c'est la putain du diable. On est pourri. C'est, vous savez, il faut bien connaître Luther hein, pour bien comprendre qu'actuellement, il n'existe plus beaucoup de luthériens. Parce que les luthériens progressistes, eux, disent le contraire. Mais on est tous gentils, on est tous mignons, et c'est pour ça que Dieu nous pardonne, et qu'on va au ciel direct, et qu'il n'y a pas de purgatoire. Mais c'est pas ce que disait Luther. Luther disait, on est tous pourris, on est tous pécheurs, on est bons à rien, et Dieu nous pardonne par sa grâce et son amour infini. Voilà. Gratuitement, comme ça, d'un coup. Quoi qu'on fasse, oui. Qui ça, Sainte Thérèse de l'Avila, elle l'a vue en enfer, mais peut-être qu'elle n'avait pas porté ses lunettes. Qu'elle l'a confondue avec Calvin. Voilà.
Il devait le savoir parce qu'on raconte qu'un jour avec sa femme...
Il a mis sa concubine, il a mis la main de sa concubine dans le feu du foyer, dans le salon... Et l'autre a dit, ah, ça va pas la tête, ça brûle. Et il dit, il faut qu'on s'habitue.
Bien sûr, il contemple un ciel étoilé et un moment, il lui a dit, mais.
Nous n'y aurons pas droit.
C'est pas pour nous, ça. Enfin,
voilà,
des,
oui.
Des constellations, des
choses. Ben oui, oui. Il était vraiment en particulier. Ah oui, bien sûr. Mais il faut. Il y a la part de regret. Vous voyez, quand quelqu'un vous dit. L'amour inconditionnel de Dieu, la miséricorde inconditionnelle de Dieu, c'est que Lucifer, il est là. Je vous refais le sketch, vous avez Lucifer qui est là. Je te déteste. J'ai toujours voulu prendre ta place. Je suis le Tout-Puissant. Tu n'es rien. Hein? Voilà. N'écoutez pas, il est fatigué. Voilà. Parlons d'autre chose. Alors, que... Il est là, oui. Vous avez Lucifer dans la vie éternelle qui est là. Je vous déteste tous. J'aurais voulu tous vous tuer. J'ai pas pu vous tuer tous. Mais ça va. Ah non, mais voilà, c'est les jésuites qui m'ont obligé d'être au ciel. Donc j'y suis maintenant. Et vous allez le payer.
Bon. Monsieur l'abbé, quand on prie pour des défunts, comment on peut savoir combien de temps ils sont encore au purgatoire ?
Eh bien, Dieu ne nous le révèle pas. Ça, c'est pour enrichir les sacristies et les prêtres en offrande de messe. Mais au bout de 10-20 ans, quand même, vous pouvez vous dire que.
Le musée des âmes du purgatoire, où il y a des traces.
Oui, de brûlures venant de mains du purgatoire. Mais je termine, si vous voulez bien, puisqu'il est minuit moins le quart, quand même. Le purgatoire est un lieu d'expiation. Donc, cette souffrance consiste, comme celle de l'enfer, dans la privation de Dieu, mais temporaire, et dans une peine sensible. Là, tiens, il n'ose pas dire feu. Mais si l'on est privé de Dieu, du moins on l'aime et on sait qu'on le verra. Si l'on souffre, du moins on sait que cette souffrance aura un terme. Cette certitude fait que, même très cruelle, les peines du purgatoire ne peuvent être comparées que de loin à celles de l'enfer. Il n'en est pas moins vrai qu'au purgatoire, on souffre beaucoup. Or, si les âmes qui y sont ne peuvent rien pour diminuer ou abréger leur souffrance, nous pouvons par nos prières et nos bonnes œuvres leur procurer ce soulagement. Et c'est un des meilleurs actes de charité que nous puissions faire. Oui, on peut leur demander. Après le jugement particulier, qu'est-ce qu'il advient de l'âme ? Après le jugement particulier, l'âme, si elle est privée de la grâce à cause du péché mortel, est aussitôt livrée aux peines de l'enfer. Et si elle en état de grâce est libérée de tout péché véniel et de toute dette d'une peine temporelle, elle est aussitôt élevée à la gloire du paradis. Enfin, si elle est en état de grâce, mais avec quelques péchés véniels ou quelques peines temporelles encore dues, elle est retenue au purgatoire jusqu'à ce qu'elle ait pleinement satisfait à la divine justice. Dans l'enfer, qui est aussi appelé abîme ou géhenne, dans l'Écriture sainte, des peines éternelles torturent les démons. On oublie que les démons aussi souffrent, alors qu'ils sont de purs esprits, donc c'est très humiliant pour eux d'être unifiés. Leur esprit est uni à du feu matériel et à de la lave, ça ne doit pas être agréable. Et avec eux, les âmes damnées, dans leur âme seulement avant le jugement général. Les âmes sont plongées dans du feu physique. La Vierge Marie a fait un cours de catéchisme un peu comme ça, n'est-ce pas, à Fatima. Il voyait les démons et les damnés tourner dans le feu. du magma terrestre. La Vierge Marie a ouvert ses bras, il y a une lumière qui a rendu translucide la terre, et ils ont vu l'enfer, en bas, profond. Dans leur âme seulement avant le jugement général, dans leur âme et dans leur corps après le jugement général. Les corps ténébreux vont en enfer et sont brûlés vifs sans se consumer. Quelles sont les peines dont les damnés sont affligés en enfer? Les peines dont les damnés sont affligés en enfer sont la peine du dan, c'est-à-dire la privation perpétuelle de la vision béatifique de Dieu. Donc c'est hérétique de dire qu'un jour ils se convertiront, ni les démons, ni les damnés. La peine du sens, c'est-à-dire un feu réel qui torture sans consumer. Les ténèbres, c'est-à-dire qu'il fait une obscurité épouvantable. Les remords et l'angoisse de la conscience. La société des démons, qui sont des gens particulièrement désagréables. Et des autres damnés, qui sont aussi très très désagréables. Vous voyez ? Imaginez que vous êtes avec un assassin en série pour l'éternité. Les peines des damnés sont-elles les mêmes pour tous? La peine du dan est la même pour tous. Les autres peines des damnés ne sont pas les mêmes pour tous, mais varient avec le nombre et la gravité des péchés. Donc certains auront un enfer moins douloureux que d'autres. Enfin, la peine du dan, c'est quand même la haine. Au purgatoire, l'âme subit les peines temporelles dues pour ses péchés et qui n'ont pas été complètement soldées en cette vie, jusqu'à ce qu'elle ait pleinement satisfait à la justice divine et sont ainsi admises en paradis. Au purgatoire, l'âme est punie de la peine du dan, c'est-à-dire qu'elle ne voit pas Dieu, alors qu'elle aime Dieu, et de la peine du sens, c'est-à-dire de la privation temporaire de la vision béatifique et d'autres châtiments graves. Le feu. Les peines des âmes du purgatoire ne sont pas les mêmes pour toutes, mais elles diffèrent entre elles en violence et en durée selon le péché véniel et la peine temporelle due pour chaque âme, par chaque âme. Là, il ne précise pas les péchés mortels pardonnés. Mais ça en fait partie. De plus, elles peuvent être abrégées et adoucies par les prières accomplies pour ces âmes. On appelle les suffrages. Le purgatoire cessera après le jugement général. Et toutes les âmes qui étaient, ayant satisfait selon le mode établi par Dieu, seront reçues en paradis. En paradis, les âmes des justes, sans leur corps avant le jugement général, avec leur corps après ce jugement, jouissent de la vision béatifique de Dieu en même temps que de tout bien, sans mélange ni crainte d'aucun mal, dans la société de notre Seigneur Jésus-Christ, de la bienheureuse Vierge Marie et de tous les habitants des cieux. Tous les bienheureux du paradis ne jouissent pas également de la béatitude éternelle, mais les uns plus parfaitement que les autres, selon leur degré d'amour. Enfin, le dernier des derniers, de toute façon, voit Dieu, donc je peux vous assurer qu'il est heureux. La raison de cette différence est la suivante. Les bienheureux ont la vision béatifique de Dieu par la lumière de gloire qui est infusée par Dieu à chacun, aux anges, selon la dignité et la grâce de chacun, aux hommes, selon les mérites de chacun. De telle sorte cependant que tous, bien qu'inégalement dotés de la lumière de gloire, soient pleinement satisfaits et bienheureux. Vous voyez, on a aimé beaucoup, mais la Vierge Marie a aimé extrêmement. Donc elle jouit de la vision divine plus que les autres. C'est comme ça. On n'a pas à être jaloux, on est tous heureux.
Lorsqu'on a 5 jours de purgatoire.
Les mots jour ou année sont des notions ecclésiastiques qui ne correspondent, qui sont des images de ce qui peut se passer au purgatoire.
Enfin, ce que je veux dire, c'est que bon, si on n'a pas, on va dire, la même, le même. Je sais pas quoi, si je ne peux pas exprimer en durée, je suis fichue. Alors.
Eh ben, c'est le temps de la fille qui a giflé sa mère. Oui, en combien de temps elle regrette d'avoir giflé sa mère?
C'est pas le même.
2h30, 5h, 1 jour, 2 jours. D'accord. Vous voyez mon exemple, il est très bon. Excusez-moi d'être orgueilleux. Et voilà.
Mais alors,
eh bien, au purgatoire, c'est le temps du regret.
Mais l'expiation, on va dire, n'est pas la même pour tous, parce qu'on n'a pas fait tous les mêmes péchés.
Faute, oui.
On n'a pas
mais ça, c'est le secret de Dieu.
Oui, mais qu'est-ce qui se passe entre la fin du purgatoire et puis le jugement général, puisqu'on ne
voit pas le ciel. Le ciel. La fin du purgatoire, vous êtes au ciel.
On va au paradis avant le jugement.
Le paradis, c'est voir Dieu, c'est pas le jugement général. Le jugement général, c'est à la fin des temps. Quand toute vie terrestre sera arrêtée par le feu de la colère de l'agneau. Et à ce moment-là, tous les damnés, toutes les âmes du purgatoire et toutes les âmes de la vision divine retrouveront un corps. Le purgatoire s'arrêtera d'un coup, donc eux, ils seront en vision divine, et toutes les vies seront communiquées à chacun.
Ça veut dire qu'il y a une chronologie dans le...
Oui, tout à fait.
Une chronologie, il y a un espace.
Oui, et en plus un espace, puisqu'on ressuscite corporellement. Alors, il y a des auteurs qui disent « Oui, non, ça ne sera pas dans la vallée de Josaphat, elle est trop petite, peut-être qu'il y aura plus de monde. » Je suis désolé. Depuis la création d'Adam et Ève, à mon avis, il n'y a pas eu plus de 20 milliards d'hommes. Et la vallée de Josaphat, des gens debout, à un mètre les uns des autres, on y tient tous à 20 milliards. 20 milliards, c'est pas grand-chose. Hein. À un mètre chacun. Comment ? Oui, voilà. Et donc, voyez, je termine par une énumération.
Qu'est-ce qu'on fera avec le milliard ?
Comment ? Comment ?
Qu'est-ce qu'on fera avec le milliard ? Il n'y aura plus de...
Ah non, les 20 milliards qui seront jugés, enfin jugés, non, dont le jugement personnel... Eh bien là, on est tous, Dieu nous donne tous la connaissance de toutes les vies. Le jugement général, c'est pas... Alors, Martin, Paul Martin, aîné, le machin et les autres. C'est par illumination intellectuelle, tout le monde connaîtra la vie de tout le monde. Tous les crimes, toutes les souffrances, tout ça seront connus. Tout sera réparé. Par ce jugement général.
Est-ce qu'il est écrit comment ça va concevoir
Comment ?
Est-ce qu'il est écrit comment ça va se... Qu'est-ce qui se passe après ?
Après, c'est la vie éternelle.
Enfin, la vie éternelle.
Après, voyez-vous...
Le corps qui est
voilà. Voilà, tout à fait. Après, justement, qu'est-ce qu'on va faire au ciel ? Eh bien, la réponse de l'Église... Eh bien, on sera très heureux et on ne s'ennuiera pas. C'est tout. Alors, comme le Christ a parlé de vin, il y en a qui disent on va boire du vin. Par contre, le Christ a bien précisé qu'il n'y aura plus d'enfants nouveaux. Il n'y aura plus d'union sexuelle. On sera comme les anges de Dieu.
Ni de mari, de femme, de frère, de soeur.
Le mariage, c'est un amour. Un amour particulier. Quelqu'un qui a été marié deux ou trois fois aime sa première, sa deuxième et sa troisième femme avec un amour particulier. Une mère aime ses deux enfants d'un amour particulier pour l'un et l'autre. Ses 10 enfants de chaque d'un amour particulier. Il n'y a pas de jalousie dans la vie éternelle. Chaque amour est particulier.
Il n'y a pas plus d'explication de...
Non, pas, non parce que... Mais regardez les explications qui ont été données dans le Coran... De jouissance corporelle.
Et,
oui, mais vous vous rendez compte un peu de la catastrophe que ça a provoqué dans l'esprit de certains. Dieu n'a pas voulu nous décrire le bonheur qu'on aura après la résurrection des morts. Il nous a dit qu'il n'y aura plus d'échanges sexuels. C'est déjà, ça calme l'imagination d'un certain nombre. Mais ensuite, par contre, il nous a dit que la terre serait réornée et plus belle qu'avant. Donc il y aura, pour ma part, c'est une opinion totalement personnelle, il y aura, à mon avis, de la végétation, il y aura des paysages.
Donc c'est un mystère.
C'est un mystère. Dieu ne l'a pas révélé. Il a seulement révélé que ça sera très beau et magnifique.
C'est juste quelques mots.
Comment ?
Juste quelques mots de...
Juste quelques mots.
J'ai l'histoire d'un catholique qui vivait en Angleterre protestant, qui a été, qu'on avait arrêté, et qu'on avait condamné à mort, et on lui a proposé de renier la foi catholique en échange de il dit absolument sûrement pas. Donc on lui a condamné à la pendaison, donc on l'a accroché au jeton, et la corde n'était pas assez solide, donc il est cassé. Donc il est tombé par terre. Et donc il y a Jésus qui a dit, bon bah, écoutez, bah, profitez-en pour revenir à la foi catholique, vous voyez. Et il a dit, mais sûrement pas, si vous avez vu ce que j'ai vu, vous vous précipiteriez aussi sur le gibet. Et il s'est dépêché de remonter et il dit, allez, maintenant prenez-moi, dépêchez-vous.
Mais il ne se serait pas tué.
Non, il ne se serait pas tué.
Mais comme son ange gardien, lui avait déjà, les anges avaient déjà commencé à recevoir son âme, vous savez, c'est comme les expériences de mort imminente. Il y a une lumière. Et cette lumière, à mon avis, c'est la rencontre avec le Christ. Moi, je connais un homme qui ne mentait vraiment pas, qui a eu une crise cardiaque. Alors, ça peut être l'imagination. Enfin, si c'est l'imagination, c'est l'imagination. Si c'est une rencontre avec le Christ, il a fait une expérience de mort imminente. Il a entendu une voix et il lui a dit « Non, pas maintenant. » Et il est reparti en arrière. Je suis assuré que... pour le reste de sa vie, il a été croyant, parce qu'il disait, il y a une vie après la mort, il y a des gens qui nous parlent après la mort. Ça pour lui, il était absolument certain. Voilà, voilà.
Que devient l'ange gardien ? Notre ange gardien,
il est présent. Alors, ça c'est tradition orale, c'est nulle part dans les catéchismes. L'ange gardien assiste à notre jugement particulier. Et nous défend. Par contre, ce qui ils n'ont pas précisé, mais ça c'est plus dans un enseignement, le démon est présent à notre jugement particulier et réclame et insiste sur toutes nos fautes et développe toute sa haine. Mais ça sert à rien puisque notre conscience est en vérité devant Dieu. Donc c'est pas il va pas influencer Dieu, mais il est là pour nous insulter. L'ange gardien, lui, est là pour nous défendre. Et si on a particulièrement eu une dévotion pour tel ou tel, ils seront là. Par exemple, tous ceux qui ont une dévotion pour la Vierge Marie, ils sont quasiment certains de la voir à leur jugement particulier. Ce qui doit réduire leur purgatoire. Parce que la Vierge Marie, elle, si vous voulez, ce qu'elle demande à son fils, avant que le Christ lui refuse, c'est tout... C'est très profond et très vrai. Hein. Actuellement, voyez-vous, à Fatima, à Akita, la Vierge Marie dit, il y aura un châtiment, si les péchés ne s'arrêtent pas, 73 ans, depuis, on a 6 millions d'avortements par an, à mon avis, en ciel, ça doit être tendu. Et donc, la Vierge Marie dit, si les péchés ne s'arrêtent pas, eh bien, il va y avoir un châtiment tel qu'il n'y en a pas eu depuis le déluge, où une grande partie de l'humanité va mourir, et n'épargnant ni les prêtres ni les fidèles, et les vivants environt les morts. C'est au moins du 2 milliards de morts, ou 1 milliard de morts. Les cardinaux se battront entre eux. Les âmes qui seront consacrées seront persécutées par le démon, et beaucoup quitteront le service de Dieu. On est en 73, entre 70 et 95, il y a eu 30 000 à 50 000 prêtres religieux qui ont quitté le sacerdoce. C'est l'accomplissement complet de la prophétie de la Vierge Marie à Akita au Japon. Maintenant, les cardinaux entre eux se battent, donc la prophétie s'accomplit parfaitement, mais maintenant, il reste le grand châtiment. Et là, tout le monde fait l'idiot. Pardon ? Quel vélo ? Vous avez parlé d'un vélo ? Non, d'un châtiment. Un vélo à vélo électrique ? Non, un châtiment. Un vélo ? Non, un châtiment. Ben, on ne sait pas. Et puis la Vierge Marie, c'est la seule qui puisse, indépendamment de la justice, demander au Père de contempler le sacrifice de son fils et demander à son fils de rester un agneau. Elle peut le demander. Tandis que Si vous voulez, la responsabilité de la Sainte Trinité, c'est d'arrêter la souffrance des innocents. Dès que Dieu donne plus de temps aux hommes, ils peuvent aussi pécher. Donc la fin des temps, le jugement général, enfin la fin des temps, c'est quand même la fin du péché. Et donc, si vous voulez, la Vierge Marie, elle est bien gentille, mais à un moment donné, Jésus va lui dire, c'est plus possible. Et la Vierge Marie, jusqu'au bout, va lui dire, mais tu peux faire en sorte que justement, il y ait des grâces particulières et lourdes qui vont convertir des âmes, et il y aura du coup moins de souffrance des innocents. À ce à quoi le Christ va lui dire, mais on triche, parce qu'on va leur donner des grâces très particulières qui vont forcer leur liberté. Vous voyez ? Donc imaginez la prière entre Marie, la Sainte Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, les saints. Vous avez des saints qui sont... je suis sûr qu'Élie, lui, il dit « maintenant, maintenant, maintenant hein. ». Mais vous avez d'autres saints qui étaient d'une douceur extrême, qui sont du côté de la Vierge Marie. Ils disent « non, 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 on retient le bras, on retient le bras, on retient le bras ». Vous voyez ? C'est les progressistes, n'est-ce pas, au ciel. Et voilà, la Vierge Marie est au ciel, hein. Sur terre, elle n'est pas vraiment. Pas. Mais à mon avis, voyez-vous, elle est tout à fait dans le sens de redonner toujours plus de temps pour qu'elle ait... Vous voyez, les paraboles, c'est le blé et l'ivraie. Et Dieu lui-même assume cette miséricorde et dit, on ne coupe pas avant la fin des temps. Parce que on ne sait pas encore distinguer entre le bon et le mauvais grain.
Là, on va, ça y est, il va y avoir la distinction avec la lettre des cardinaux où on est...
Mais on ne sait pas, on ne sait pas. Du temps d'Honorius, il y a aussi des disputes. On ne sait pas si c'est vraiment l'ultime dispute. Imaginez que tout se rétablisse, que... voilà. Ben oui, mais vous êtes pessimiste, c'est pour ça. Bienvenue au club.